Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical jusqu'à 9h, Tendance Confidence, avec aujourd'hui comme invité Charles-Édouard Aran, historien du scoutisme, et vous enseignez en classe préparatoire en Cagne et Hippocagne à l'université de Rouen, si j'ai bien lu votre curriculum vitae.
Voilà, j'enseigne à l'université de Rouen et en classe préparatoire littéraire, et j'ai écrit L'aventure par nature, une histoire d'un siècle des scouts et guides de France.
Vous êtes marié et père de 3 enfants qui sont eux-mêmes scouts ?
Oui, qui sont eux-mêmes scouts et qui ont fait leur camp en juillet, puisque on a eu la chance de pouvoir les voir partir et ils étaient très heureux, ça s'est très bien passé. Malgré la crise du Covid, il a fallu s'adapter pendant une année pour les activités de plein air.
Vous êtes agrégé docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris. L'histoire du scoutisme, c'est une histoire qui est née en 1907 en Angleterre.
C'est ça. Robert Baden-Powell, qui était un officier de l'armée britannique, est revenu en Angleterre après avoir servi en Afrique du Sud, entre autres. Et il a été un petit peu atterré par l'état sanitaire d'une partie de la population juvénile, notamment dans les faubourgs de Londres. Et donc, il a eu l'idée de les emmener camper, de les faire jouer. On a là deux éléments essentiels du scoutisme, le jeu, l'éducation par le jeu. C'est en fait, il pense que les jeunes doivent être mis en activité, c'est donc une pédagogie active, l'éducation des jeunes par les jeunes.
Alors nous parlons des scouts de France, des guides également, une sensibilité aussi qui existe, les scouts d'Europe. Quelques mots sur différentes sensibilités du scoutisme et du guidisme.
En France, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a par exemple les éclaireurs de France qui sont laïcs, les éclaireurs unionistes et éclaireuses unionistes qui sont protestants. Il y a un mouvement pour les juifs, un mouvement pour les musulmans. Et du côté catholique, vous avez 3 gros mouvements, les scouts et guides de France, et puis deux mouvements un peu plus traditionnels, les scouts et guides d'Europe que vous venez de citer, et les scouts unitaires de France.
Alors si les scouts et les guides aiment marcher, aiment randonner, ils aiment, pour certains d'entre eux, naviguer, ils s'appellent les scouts marins.
Oui, dès la création des mouvements, des jeunes et puis des jeunes adultes ont voulu appliquer la méthode scout à la mer. Dès les années 20, il y a quelques tentatives et puis la proposition marine va se développer tout au long du XXe siècle. Et effectivement, il y a des scouts marins. C'est une formation qui demande aussi beaucoup de discipline, de technicité, mais il y a des propositions marines, effectivement.
Alors les scouts et les guides ne sont pas autrement que les jeunes de leur âge, leur génération, avec les jeux vidéo, avec les réseaux sociaux. Comment trouver l'équilibre entre les jeux virtuels et les jeux dans la nature ?
En travaillant un peu sur le sujet, je me suis intéressé à cette question du jeu. Pour ceux qui connaissent un peu, le scoutisme est un peu précurseur des jeux de rôle, en inventant les grands jeux autour d'un imaginaire, avec des rôles, avec des règles, en mettant en activité des jeunes pendant plus d'une heure, sur une demi-journée parfois, voire une journée entière ou 2 jours. Donc la pédagogie de l'imaginaire et du jeu, donc finalement, passer du virtuel, du jeu un peu en réseau ou du jeu vidéo, au jeu en plein air, se fait assez facilement dans le scoutisme pour un certain nombre de jeunes. Évidemment, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas à ceux qui sont adhérents. Après, depuis une dizaine d'années, par exemple, chez les scouts et guides de France, commence à se développer une éducation pour discerner ce qui est une intox d'une info, pour éviter de se moquer de quelqu'un, de créer un effet de meute.
Et est-ce que l'uniforme permet de ne pas créer différents clans, différentes meutes ? Moi, j'appartiens à tel groupe. Comment faire unité ? Comment la fédération s'y retrouve-t-elle par rapport à cette notion de vivre avec l'autre ?
L'uniforme a été pensé au départ, parce que c'était le scout va randonner, va camper, donc c'était quelque chose de pratique, qui était le short, la chemise kaki, les gros godillots, les grosses chaussettes en laine, bien que des anciens disent que c'était, surtout les filles en fait, disent que c'était pas très saillant et pas très pratique. Pour les garçons, ça passait un peu plus. D'abord, l'uniforme s'est modernisé dans bien des mouvements. Maintenant, c'est soit le bermuda en été, short bermuda et la chemise qui est plus colorée en fonction des tranches d'âge. Bon, ça c'est un signe un peu distinct. Le foulard, vous l'avez dit, est tout à fait typique du scoutisme. Et chaque groupe a son foulard. C'est un effet un petit peu d'identification, c'est vrai. Et en fait, le scoutisme joue sur ces deux échelles, je dirais. L'échelle individuelle, c'est une formation de l'individu qui va apprendre à rendre service, qui va apprendre reconnaître des signes de piste, mais aussi à monter une tente, à vivre avec l'autre, d'apprentissage de la vie sociale, qui va permettre d'aller au-delà des particularités.
Donc une chemise, un foulard, oui. Et un sac sur le dos.
Oui.
3 mots se dessinent déjà avec cette image intemporelle du scout et de la guide. Avec plus de 88 000 adhérents en 2020, les scouts et guides de France attirent chaque année des milliers de nouveaux membres, jeunes et adultes venus de tous les horizons. C'est comme un défi par rapport à notre monde.
Oui, c'est un vrai défi pour un mouvement catholique d'être ouvert à tous, d'accueillir quand même des jeunes qui sont aussi de familles détachées, peu pratiquantes, mais de tradition catholique, ou voire des familles non catholiques et des jeunes donc qui ne sont pas du tout élevés dans la foi. C'est aussi un défi, mais pour tous les scoutismes, d'accueillir des jeunes d'origine sociale, de culture un peu différente. Je ne parle pas de culture étrangère, hein, je parle de culture sociale aussi un peu différente, et en leur proposant une méthode unique, ça permet de lisser un peu ces différences, même si elles se retrouvent ici ou là, évidemment, dans l'attitude, dans le rapport à certaines activités. Au cœur du scoutisme depuis 100 ans, en fait.
Charles-Édouard Arand, vous êtes donc enseignant en classe préparatoire littéraire à l'Université de Rouen. Avec vous, nous parlons de l'ouvrage dont vous êtes l'auteur, « L'aventure par nature, 100 ans des scouts et guides de France » paru aux presses d'Île-de-France. Parlons d'une tranche d'âge que vous abordez dans cet ouvrage, les 12-17 ans.
Oui, la tranche d'âge initiale que Baden-Powell avait inventée, qui a été reprise, développée en France au départ, ce sont les adolescents de 12 à 17 ans, qu'on appelait les éclaireurs. L'idée, c'était aussi ceux qui avaient 16-17 ans étaient un peu le modèle pour les 12-13 ans. Et puis, avec la scolarisation massive qui est en France à partir des années 50, avec la création des collèges et des lycées qui vont être séparés, surtout dans les années 60, on se rend compte du côté des responsables catholiques, protestants, laïcs, enfin bref, de tous les responsables des différents scoutismes. 14-17 ans, ce qu'ils veulent, c'est agir pour la société en groupe par des actions de rénovation de monuments historiques, de rénovation de GR, de protection de l'environnement avec la surveillance des feux de forêt dans le sud de la France, où il y a quatre bases de surveillance en lien avec les pompiers chaque année. Mais le jeu semble passer un petit peu plus à la trappe pour les 14-17 ans, qui jouent moins quand même que les 12-13 ans.
Donc maintenant, deux tranches d'âge séparées entre les 12 et les 17 ans.
Depuis quand même pratiquement 60 ans maintenant, les scouts et guides de France ont séparé ces deux tranches d'âge. Et donc ce sont les scouts et les guides pour les 12-14 ans et les pionniers caravelles pour les 14-17 ans.
Et qu'en est-il pour les responsables que l'on appelle le chef ou cheftaine ?
Généralement, les chefs et les cheftaines, ils ont entre 18 ans et 24 ans. C'est à peu près la tranche d'âge. Donc en fait, ce sont aussi des jeunes, finalement. Hein. Et quand on dit mouvement de jeunesse, la plupart des cadres sont aussi des jeunes de 18-24 ans. Il y a de la formation qui a été mise en place dès 1923 d'ailleurs. Et dans tous les mouvements, vous avez des stages de formation. L'équivalence BAFA, donc, puisque la législation quand même est stricte là-dessus. Donc les chefs sont formés à l'animation, formés à l'accompagnement. Hein. Après, il y a des chefs pour les 12-13 ans, 12-14 ans, des chefs et des cheftaines pour les 14-17 ans et ainsi de suite.
Charles-Édouard Arand, vous êtes invité de Tendance Confidence aujourd'hui. Je rappelle que vous enseignez en classe préparatoire littéraire à l'Université de Rouen, auteur de l'aventure par nature, 100 ans des scouts et guides de France. 100 ans, c'est bien, et pour un mouvement de jeunesse, c'est vénérable.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le scoutisme a traversé un siècle quand même assez chargé en histoire, y compris en histoire de France, hein. Une guerre mondiale, les transformations, l'urbanisation quand même de la France, l'enrichissement des Français, la société des loisirs, donc tout ça, le scoutisme l'a traversé, non sans parfois tension, parce qu'il fallait répondre aussi à des nouvelles attentes, donc il fallait s'adapter. La plupart des mouvements ont choisi d'aménager un peu leur pédagogie sans transiger sur le fond. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que tout en conservant le fondement de la méthode, la plupart des mouvements, dont les scouts et guides de France, ont adapté la pédagogie à la période. Certains ont choisi de la conserver telle qu'elle avait été pensée, soit dans les années 30, soit dans les années 50, comme par exemple les guides et scouts d'Europe, ce qui répond visiblement à l'attente de certaines familles. Donc d'autres ont adapté la pédagogie sans, encore une fois, transiger sur les fondamentaux.
Quels sont les différents secteurs de la Normandie depuis Verneuil-sur-Avre, Rouen, Le Havre, Dieppe, et puis aussi Alençon, Coutances, Cherbourg, etc. Est-ce qu'il y a des lieux privilégiés pour les camps d'été ?
Pour les lieux où il y a des camps, toutes les côtes sont privilégiées. La campagne aussi, dans le Pays de Caux, autour de Caen, je sais qu'il y a pas mal de... Vous avez souvent aussi des camps itinérants qui vont aller vers le Mont-Saint-Michel, traverser la baie entre autres. Et pendant 15 jours, les jeunes vont en fait changer de lieu, soit tous les deux jours, soit tous les jours. Donc c'est une sorte de grande randonnée. Mais la Normandie était privilégiée, notamment, ça on le sait, hein, par les groupes scouts de la région parisienne qui ont facilité à venir chez nous.
Alors avec vous, Charles-Édouard Aran, nous parlons du scoutisme, du guidisme, avec ses différentes randonnées, ses différents camps itinérants. Parlons avec vous de ces grands rassemblements que nous appelons les jamborées.
Le jamboree, il a souvent lieu plutôt dans la propriété des scouts et guides de France, qui est à Jambeville. Alors, le hasard a fait que au début des années 50, les scouts de France ont acheté une propriété qui se trouve dans les Yvelines, au nord de Mantes-la-Jolie, dans la campagne. Une grande propriété avec un immense parc. Pour les Normands, c'est pratique parce que du coup, ils n'ont pas trop de déplacements. Mais j'y pense, il y a un événement qui se déroule, je ne sais pas si c'est chaque année, mais sur les plages du débarquement, puisque les scouts américains viennent, je crois, chaque année, au moment des fêtes du débarquement, du 6 juin, au niveau du cimetière américain. Et je sais qu'une année, il y a eu pas mal de groupes normands qui sont venus, celui de Deauville-Trouville, des groupes de Rouen sont venus les rejoindre pour deux jours de fraternité internationale.
Est-ce que votre livre, Charles-Édouard Aran, c'est pour dépasser certains clichés, qu'ils soient cinématographiques ou bien encore pittoresques, lorsqu'on en réduit le scoutisme à une phrase ou à un film ?
Dépasser les clichés, oui, parce que le scoutisme est extrêmement moderne. Et c'est un peu l'axe que j'ai voulu donner aussi à cette histoire. Il répond à deux dossiers importants de notre société actuelle, que sont les rapports garçons-filles. Et donc, quand on parlait de mixité tout à l'heure, c'est aussi comment on peut faire grandir des garçons et des filles ensemble, tout en conservant leur identité. Et la question de la nature. Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne que d'aller camper et de faire. Quand je vous disais qu'on garde les fondements, Baden-Powell disait on laisse le lieu de camp plus propre qu'on l'a trouvé. Je trouve que c'est extrêmement moderne.
J'imagine que vous êtes sensible à cette lettre du pape qui s'appelle Laudato Si, qui parle de la maison commune de la planète Terre, où il dit que la nature humaine et la nature qui nous permet de respirer, tout est lié.
Alors tout à fait, d'autant plus que les scouts et guides de France en ont fait leur résolution avec une vraie réflexion sur comment lier l'ensemble des éléments de la pédagogie, des activités. Laudato Si est devenu l'encyclique référence des scouts et guides de France. Je trouve que parmi les textes sur la question écologique, au-delà du côté spirituel ou religieux, je trouve que c'est une encyclique qui mérite d'être lue parce qu'elle dit beaucoup de choses vraiment intéressantes sur cette question.
Et vous êtes aussi l'auteur, notamment, de « Quand les jeunes catholiques découvrent le monde », tout un défi aussi là que de découvrir le monde lorsqu'on appartient à une famille qui est la famille de l'institution catholique.
Oui, exactement. C'était la question du rapport à l'international, à la mondialisation des jeunes catholiques. Comment on passe de la colonisation à la coopération, à la découverte de l'autre. Je disais tout à l'heure que les 17-21 ans chez les scouts partent généralement dans un pays étranger pour mener une action de solidarité internationale, de rencontre internationale, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique.
Et vous qui enseignez en classe préparatoire littéraire à l'Université de Rouen et qui appréciez le scoutisme, ce qui a fait naître cet ouvrage dont on parle aussi avec vous, Charles-Édouard Aran, les jeunes sont sensibles à l'humanitaire aujourd'hui ?
Oui, c'est vraiment une question qui les taraude, et ce, je dirais, depuis une grosse génération. On le sent bien, là, pour en avoir discuté avec des responsables scouts, la crise de la Covid a frustré un peu ces 17-21 ans qui ne pouvaient plus partir, et il a fallu aussi leur expliquer que la solidarité internationale pouvait aussi se vivre en France, d'autres façons.
Alors, puisque vous enseignez en classe préparatoire, vous avez l'habitude de donner des sujets de réflexion, des dissertations.
En effet, oui.
En effet. Eh bien, laissez-moi vous donner un sujet, s'il vous plaît.
Ben, volontiers.
Que j'emprunte aux semaines sociales il y a quelques années, qui étaient déroulées Porte de Versailles à Paris. Et le sujet était le suivant. Comment transmettre des valeurs et éveiller à des libertés ?
Vous me laissez un peu de temps. Généralement, je laisse 6 heures à mes étudiants pour y répondre. C'est tout le défi du scoutisme depuis 100 ans, et même un peu plus pour sa fondation en Angleterre. Mais ça a toujours été ça. C'est-à-dire incorporer des valeurs sans les imposer, qu'elles soient librement consenties et surtout qu'on se les approprie. Et je trouve que le génie du scoutisme, en touchant, comme on dit, les 5 axes de développement, c'est-à-dire le développement physique, le développement social, le développement manuel, intellectuel et spirituel, le rapport à l'autre, c'est finalement de permettre à chacun de s'approprier aussi de cheminer, c'est-à-dire cette appropriation, elle se fait en fonction de chacun. C'est aussi ce beau défi que le scoutisme me semble remplir, ce qui explique qu'on a besoin de former des chefs.
Donc 100 ans d'ouverture sur le monde, 100 ans de défense de la nature, 100 ans de spiritualité et 100 ans à donner la voix aux jeunes.
Exactement. À travers toutes ces activités, je suis en train de me refaire le film de toutes ces années de scoutisme, de tous ces cheminements, de toute cette production de jeux, de chants, de pièces de théâtre pour les veillées aussi, de littérature scout, des romans, d'actions dans la nature. Nettoyer les plages du littoral dormant, par exemple. Voilà d'autres possibilités, effectivement, d'action.
Et en cette période où beaucoup de parents inscrivent leurs enfants ou des adolescents dans des mouvements, pourquoi pas le scoutisme ?
Je ne sais pas si le scoutisme est fait pour tous, mais il était ouvert à tous. Et donc, tenter l'expérience, il y a des groupes à peu près partout, et en tout cas en Normandie, c'est le cas, pour faire grandir les enfants, retrouver le goût du plein air, sortir de sa chambre, sortir de l'ambiance virtuelle qui des réseaux sociaux touche la quasi-totalité de nos jeunes aujourd'hui. Hein. C'est important.
Merci beaucoup, Charles-Édouard.
Merci à vous.
Podcast by Tendance Ouest.